Voilà, je vous invite tous à la prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que c'est par ta parole que nous puissions voir la lumière, puisque ta parole est lumière. Et nous sommes disposés de cette journée pour venir s'asseoir à tes pieds pour écouter ce qui sort de ta bouche. Nous te recommandons ton serviteur et que tu nous conduis dans ce moment de réflexion. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Voilà. À toi, Fred.
Je suis très heureux d'être avec vous encore pour cette année et de partager un sujet qui me tient vraiment à cœur, que je travaille depuis, j'allais dire, presque, ouais, je n'ose pas dire 15 ans, mais je ne suis pas loin, et qui est rafraîchi, j'espère en tout cas, par l'actualité. On doit quand même bien admettre que depuis quelques décennies, l'actualité nous fait un peu tourner la tête. Et ce n'est pas simplement nous, chrétiens, qui sommes sensibles à ça, mais certainement vous l'avez aussi entendu dire par des personnes qui sont loin ou ignorantes à la foi, en disant « mais le monde est en train de passer » ou en tout cas « le monde ne tourne plus rond », etc. On l'entend autour de nous. Et je pense que nous avons, nous, en tant que chrétiens, de quoi être à la fois rassurés et en même temps inquiets, mais inquiets dans un bon sens du terme. Inquiets parce que nous savons que les choses, de toute façon, ne pourront pas aller mieux, parce que la Bible affirme des choses dans ce sens. Et en même temps rassurés parce que quand Jésus dit « quand vous verrez toutes ces choses, relevez vos têtes, votre délivrance approche », ça c'est quelque chose qui est incroyable hein, pour les croyants que nous sommes. Alors lorsque les pharisiens et les sadducéens demandaient à Jésus de leur faire voir un signe venant du ciel, Jésus leur a dit ceci, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Alors vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas distinguer les signes des temps. » Et l'apôtre Paul, conscient de cela, écrit, lui, « Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. » Comment peut-on affirmer comme Paul aujourd'hui être sûr de savoir en quel temps nous sommes, si ce n'est que par les événements que nous pouvons scruter, discerner et que nous pouvons mettre en rapport avec l'Écriture, quand l'actualité rejoint la Bible. Ce qui veut dire que nous devons connaître l'Écriture pour que nous puissions faire rejoindre l'actualité à l'Écriture. Et quand elle se rejoint, alors nous contemplons la puissance de Dieu et en même temps nous sommes dans une paix parce qu'effectivement nous savons où nous en sommes. Mais on va le voir tout au long de cette soirée, demain aussi, toute la journée, comment nous pouvons essayer de discerner les temps et les moments. Savoir en quel temps nous sommes, c'est aussi quelque part faire un mariage, je l'ai un petit peu laissé entendre, mais le mot mariage pour moi me paraît important. Mariage, c'est-à-dire une union entre l'actualité et la Bible, n'est-ce pas? Les deux doivent aller ensemble. Mais je rappelle que c'est l'actualité qui rejoint la Bible et pas l'inverse. Parce que l'Écriture a été écrite depuis bien des siècles, bien évidemment, et tout se passe, tout s'est préparé et tout arrive parce que tout a été écrit. Alors je voudrais faire une remarque. Dans nos traductions bibliques, le terme que l'on traduit par « temps », vous savez en quel temps nous sommes, peut venir de deux mots grecs différents, le chronos et le kairos. Le chronos a donné le mot chronomètre, c'est le même sens étymologique, et qui exprime un temps répétitif qui est défini, bien précis, mais qui vient régulièrement, hein, les secondes, les minutes, etc. Bien. Donc le chronos, nous y sommes entrés et nous y entrons au moment où nous sommes conçus déjà hein, en tant qu'êtres humains et tout au long de notre vie, nous entrons et nous sommes liés à ce chronos. En revanche, le kairos va exprimer, lui, une notion de temps à travers des événements successifs. C'est un petit peu différent. Et ces événements peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins longs, plus ou moins éloignés les uns les autres dans le temps. Par exemple, un étudiant va dire, après le temps de mes études, kairos études, je travaillerai. Après le kairos travail, je serai à la retraite. Mais dans le kairos travail, il peut y avoir des petits kairos. Par exemple, je vais construire la maison. Ça va durer un certain temps. Un kairos. Vous voyez comment les choses peuvent se passer. Et c'est bien le terme de kairos que Paul emploie lorsqu'il cite la citation, ou qu'on donne la citation, vous savez en quel événement, littéralement, hein, vous savez en quel événement nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Nous comprenons donc que Dieu n'est pas, lui, enfermé dans le chronos. Il est maître du temps. Dieu est au-dessus de cela. Dieu est dans le kairos. Il est dans le temps événementiel, événement. Et tout au long de ces pages, l'Écriture montre combien les événements et les kairos de Dieu se sont enchaînés, plus ou moins longs dans le temps, mais qui font que Dieu, lui, travaille, entre guillemets, agit dans le kairos. Posons-nous donc la question, ou en tout cas, laissons-nous alerter par le Seigneur Jésus lui-même, qui, ne l'oublions pas, du kairos dans lequel il était comme Dieu, s'est humilié en venant sur terre, s'abaisser au chronos des hommes. Et au moment de sa conception, il s'est diminué à ce point, lui, le Dieu qui était dans le kairos. Et c'est Jésus lui-même, nous allons le voir, mais aussi l'apôtre Paul, qui vont nous permettre d'avancer dans notre thème ce soir. Et nous allons nous arrêter tout d'abord dans ce que j'appellerai les signes de Noé et de Lot. Je lis dans Luc, chapitre 17, verset 26. Jésus dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Remarquez le « il faut auparavant qu'il souffre beaucoup ». Et là, nous savons en quel temps nous sommes. Il a souffert. Alors vous me direz « oui, ça fait 2000 ans ». Qu'importe. Il a souffert. Il est mort. C'est fait. Cet événement kairos est passé et Jésus l'avait annoncé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, comme le Fils de l'homme n'est pas encore paru, nous pouvons considérer que les signes dont parle Jésus et qu'il lie à deux personnages importants de l'Ancien Testament, Noé et Lot, nous intéressent. Et nous allons essayer d'approfondir un petit peu cela. Oui, Jésus ne dévoile pas totalement cette prophétie. Il l'annonce simplement, et il y a plusieurs choses qui sont données ici, que d'abord à son retour, la génération ou les personnes ou le monde seraient insouciants, plus préoccupés à leur propre vie qu'à se tenir prêts en alerte d'un événement extraordinaire et planétaire. D'où peut-être l'expression de Paul, « Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller », c'est-à-dire d'être attentif. Rappelez-vous quand même que Jésus dira à ses disciples à plusieurs reprises « Veillez et priez ». N'est-ce pas ? La veille fait que je ne dors pas. L'insouciance au temps de Noé et de Lot se manifestait par le fait de manger, de boire, associé à deux domaines vitaux pour le bien vivre. Le premier, c'est le temps de Noé, concerne ce que j'appellerais les relations familiales, ce qui compose la société, ce qui fait que nous vivons et que nous donnons la vie, et que cela se perpétue. Les hommes mangent, boivent, se marient, marient leurs enfants. Nous avons ici le social qui nous est donné. Ensuite, le second, associé à Lot, concerne les activités professionnelles. Excusez-moi, j'ai un petit peu avancé trop vite. Voilà. Voilà, mais ça, ils achetaient, vendaient. Bon, si ça apparaît, on ne le voit pas très bien. Voilà, je croyais que ce n'était pas venu, mais c'est venu. Ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est tout ce qui concerne notre vie professionnelle, enfin, notre travail, notre vie sur cette terre, en dehors du social. Mais les deux choses font que nous sommes dans cette vie. C'est ce qui fait l'essence de la vie. En même temps, derrière ces deux noms, Noé et Lot, Jésus ne veut-il pas nous interpeller quant à la cause même des deux terribles jugements qui sont tombés sur Noé, sa génération, et sur Lot, sa génération? Je pense qu'il faut peut-être creuser dans ce sens-là. Et la question que nous devons donc nous poser est la suivante. Que se passait-il au temps de Noé et de Lot pour que Dieu agisse avec autant de sévérité? Parce que ça n'a pas été simple, ça a même été violent. Et à la lecture de leurs récits respectifs, on peut supposer que le monde ou leur monde d'alors n'était pas si enchanteur que cela. Regardons un peu de plus près. Dans le livre de la Genèse, nous lisons au chapitre 6, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Un peu plus loin au verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, et Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue. « Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » C'est donc, nous le voyons, la violence et la méchanceté des hommes qui provoquèrent jadis la colère du ciel et entraînèrent la destruction de toute l'humanité par le déluge d'eau. Sauf, bien sûr, Noé, qui trouva grâce auprès de l'Éternel, avec sa famille. Ce que nous sommes appelés peut-être à discerner dans le signe que Jésus donne par Noé semble être un petit peu les mêmes choses, violence, corruption. Deux termes qui apparaissent là, qui ressortent de ce texte même de la Genèse et qui pourraient bien caractériser tout autant le monde de la fin avant l'arrivée de l'homme, Jésus-Christ. Comme l'Église, aujourd'hui, peut se poser cette question, effectivement, il y a, et on le discerne aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de violence et de corruption. J'y reviendrai, le dieu Mammon en particulier règne en plus que maître. Il est au-dessus de tout. Et on le voit de plus en plus dans notre société aujourd'hui. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront pas. Ce qu'il prévient, ce qu'il annonce, fait que l'imminence d'une catastrophe à nouveau est sur notre tête, mais en même temps, les promesses qu'il a accordées et qu'il a données vont se réaliser. L'actualité n'est-elle pas ici éclairée par l'Écriture ? La violence se vit partout. Elle prend diverses formes. Et à cause de cela, tous les pays, on peut le dire, sont aujourd'hui dans une forme de guerre. Je pense aussi à cette violence des mots, à la violence des images, grâce aujourd'hui aux médias, à Internet, dont nous reparlerons demain après-midi en particulier, qui alimente cette violence, cette haine, ce mépris, cette intolérance, etc. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, sous-entend aussi cette violence au moment où il dit « Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des champs de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et au début de ce passage, Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des kairos difficiles. » Et il développe « Car les hommes seront. » Et nous vivons des événements de ce type. Pas forcément qu'en France, mais un peu partout. On le voit dans le monde. Et cela s'accentue de plus en plus. L'apôtre Paul n'est pas non plus en reste quant à la corruption de ces derniers jours, puisqu'il fait mention dans cette description des signes des temps de l'amour de l'argent. N'est-ce pas? Ça, c'est la corruption, l'amour de l'argent. L'amour de Dieu Mammon. Un certain Jean-Marie Rouard de l'Académie française a écrit, je le cite, « La mondialisation, Internet, ont donné à l'argent un pouvoir sans frein tel qu'il n'a jamais eu dans l'histoire du monde. » Alors, c'est lui qui le dit, hein, ce n'est pas une parole de la Bible. Mais je trouve que c'est assez percutant comme façon de voir, et vrai aussi, je le crois. Alors nous voyons là encore combien notre monde est lié à cette puissance de la richesse. Jésus d'ailleurs, lui-même, à plusieurs reprises dans les évangiles, dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Soit vous adorez l'un, soit vous adorez l'autre. Mais l'un et l'autre ne peuvent pas s'allier, ne peuvent pas se mélanger, même un peu. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. » Et on le voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Si ce n'est pas Dieu, c'est Mammon. Et vice-versa. Alors au temps de Noé, la civilisation s'est bien sûr dégradée jusqu'au moment où Dieu a été ou s'est senti obligé quelque part d'éradiquer la population de la terre. On ne va pas expliquer le pourquoi du comment, on ne va pas dire mais c'est injuste, mais ceci, mais cela, on n'en sait rien en fait. Dieu a remarqué la violence et la corruption, c'est arrivé un moment où il fallait que ça s'arrête, ça le regarde, j'ai envie de dire. C'est ainsi. Souveraineté de Dieu, que j'accepte. Je peux ne pas tout comprendre, je fais confiance à Dieu. Mais Noé a été appelé dans le Nouveau Testament comme prédicateur de justice. C'est-à-dire qu'il a essayé en son temps d'avertir ses contemporains de l'imminence du jugement. Mais ils se sont moqués de lui et surtout de son arche en bois qu'il fabriquait. Il est dit dans l'épître de Pierre ceci, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, ça nous concerne, nous aujourd'hui, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement » c'est-à-dire de son retour. Mais depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux, c'est-à-dire celle de Dieu, la parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » On ne peut pas faire fi de cette parole-là. Autant les eaux ont submergé au temps de Noé, et cela s'est réellement passé, autant nous pouvons dire que ce qui est annoncé à venir, parce que c'est la même parole qui le dit, se réalisera tout autant. À ce titre, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas être optimiste pour notre monde, parce que Dieu a déjà préparé et prévu quelque chose de difficile et qui sera aussi important que celui de temps de Noé, sinon plus. Le feu dont parle Pierre, où le monde est gardé pour cela aujourd'hui, fait un bon lien, une bonne introduction pour le second personnage, celui de Lot. Que nous est-il dit à propos de Lot? Lisons dans la Genèse, chapitre 19. C'est des textes un peu longs, mais il est important de les lire. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Ce sont deux anges qui sont envoyés par Dieu, alors qu'Abraham avait essayé de dire à Dieu, tu ne vas pas détruire cette ville parce qu'il y a des justes dans cette ville. Et puis il descend de 50 à 10 et encore. Et au final, Dieu envoie ses anges. Donc ils arrivent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans ma maison ou dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et nous avons là affaire à une situation assez, au premier degré, on va dire, normale. Voilà que des visiteurs arrivent dans cette ville, les gens sont au courant. Pourquoi Lot garderait-il pour lui-même quelque part des nouvelles récentes, il fallait partager. Posons-nous autour d'un petit café dans le salon du coin et discutons un petit peu de ce qui se passe ailleurs. Dites-nous, voilà, d'où vous venez, que faites-vous, etc. Or, il ne s'agit absolument pas de cela. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. On pourrait dire, oh, il est un peu égoïste, hein, Lot, mais il sait très bien de quoi il s'agit. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Comment connaître les personnes est-il faire le mal ? Eh bien parce que la connaissance dont il est question, il n'est pas dans l'hébreu, dans le mot qui est employé, n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance sexuelle. Et Lot nous le dit, « Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Alors ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Mais celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser sa porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. C'est un texte édifiant, bien sûr, et on comprend le sens qui est caché derrière et que Lot révèle à travers son attitude qui, moi qui suis père, me paraît folle. Je vous sacrifie mes deux filles qui sont vierges, donc on comprend pourquoi il les sacrifie, c'est-à-dire, sous-entendu, défoulez-vous sur mes filles, mais ne vous défoulez pas sur ces hommes qui sont venus sous mon toit et que Lot considère comme des envoyés de Dieu, qu'il ne faut pas toucher. Et là où Lot se trompe un peu, et c'est là qu'on voit qu'il a peut-être été un peu contaminé par cette ambiance et qu'il est un peu aveuglé lui-même, parce que d'ailleurs, Abraham lui-même, en sollicitant des justes auprès de l'Éternel, je ne sais pas si Lot était considéré comme un juste. Toujours est-il que ces hommes, on le voit à la fin du texte, sont capables de se défendre tout seuls, puisqu'ils aveuglent les gens au point qu'ils ne savent plus où ils en sont et ils arrivent à rentrer dans la maison en les laissant dehors. C'est-à-dire, Lot n'aurait pas eu besoin d'amener ses filles et apparemment la proposition qu'il fait ne semble pas se mettre en place, mais le texte là encore laisse un peu les choses en suspens, on ne sait pas trop, mais on peut supposer que ses filles ont été proposées mais qu'elles n'ont pas été amenées. C'est une supposition, voilà, mais qui ne change rien dans le fond du texte lui-même. Ce qui se passait au temps de Lot était une perversion sexuelle, amorale. Nous avons un texte dans le livre d'Ézéchiel, prophétie, où Dieu dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur, en parlant d'autres villes. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Nous remarquerons qu'il y a dans ce texte, mis à part le terme d'abomination que Lot, lui, exprime par l'attitude qu'il propose, des situations qui les ont quelque part conduites. Parce qu'il y a comme un événement qui, une suite logique des choses. Il y a de l'orgueil, il y a une abondance, il y a de l'insouciance, il y a une sécurité, il y a de l'égoïsme, on ne soutient plus les autres, on pense qu'à soi. On est dans un monde qui est très soumis aussi à la puissance de l'homme, pour l'homme, n'est-ce pas ? Et plus pour Dieu, on est dans une ville païenne, on est d'accord, mais en même temps, on remarque comment l'évolution avance. Et quelque part, puisqu'on a tout, le bonheur, l'abondance, l'argent, l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut encore ? Eh bien, il faut aller plus loin. Et là, on entre dans cette dépravation morale qui fait que, parce qu'on n'est pas et plus satisfait de ce que l'on a, on continue d'aller encore plus bas dans ce que Dieu appelle lui-même quelque chose d'abominable. Me semble-t-il, ces paroles sont une description de notre monde d'aujourd'hui. L'orgueil a élevé la pensée humaine au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu une telle abondance de nourriture, même si elle est mal distribuée, on est d'accord, mais il y a une abondance de nourriture. Une telle opulence de richesses matérielles, mal distribuée et déséquilibrée, on est d'accord, mais elle y est. Des satisfactions, quelque part, qui sont là aussi pleines et qui nous rassasient. Mais il y a aussi, et il faut le dire, l'impudicité qui se manifeste à travers une vie sexuelle libre, libertine, qui s'étale au grand jour, parce que devenue la norme pour tous, on prend plus plaisir à l'homme qu'à Dieu lui-même, et on attribue quelque part où on a mis en place une autre prophétie d'Ésaïe, qui l'avait fait pour son peuple au départ, mais qui, me semble-t-il, est bien pour notre société d'aujourd'hui, où on a appelé mal bien et bien mal, où on a changé la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, où pour se contenter ou pour se rassurer quelque part dans sa conscience, on normalise des situations qui, hier, étaient considérées par la majorité, à juste titre, comme mauvaises. On voit là comment Satan arrive à pervertir, j'en parlerai dans un petit moment, la vérité. Lui, le prince et le père du mensonge. Alors Jésus ajoute, il en sera de même dans le texte de tout à l'heure, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est-à-dire que violence et corruption et immoralité dans Lot et Noé nous rappellent que ces mêmes causes jadis produiront les mêmes effets aujourd'hui parce qu'elles sont aussi présentes et elles le seront à la fin des temps. Jésus avertit donc au jour de l'Éternel, le ciel et la terre, je l'ai cité, passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et cet verset que j'ai cité est donné en conclusion du chapitre 24 de Matthieu, un chapitre par excellence où Jésus nous avertit de signes encore plus précis, même si Noé et Lot, on l'a quand même remarqué, c'était relativement précis. Lorsque les disciples sortent du temple avec Jésus et que celui-ci leur fait remarquer la construction, certainement qu'ils ont dû parler de la fin des temps. Parce que les disciples, au début du chapitre 24 de Matthieu, posent cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La première question des disciples est justement motivée par le fait et cette parole troublante de Jésus qui, en regardant le temple, leur a dit, « Voyez-vous tout cela ? Il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit détruit. » Comme pour dire à ses disciples, ces temples que vous voyez, ce bâtiment extraordinairement beau, fort, puissant, invulnérable, je vous le dis, il va être détruit et les pierres en seront complètement remuées. C'est là que les disciples posent la question, mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Donc Jésus donne une prophétie qui va se réaliser et elle va se réaliser en l'an 70, lorsque Titus va venir embraser Jérusalem et le temple, alors que Jérusalem était déjà sous occupation romaine et ne payait plus le tribut, l'impôt à César. La révolte juive a été vite arrêtée par l'arrivée de Titus, qui détruit la ville et qui détruit en particulier le temple. L'amoncellement de matériaux inflammables a fait que le feu était tellement violent et puissant que les pierres ont éclaté. Et l'histoire veut, et je crois que c'est quelque chose de juste, dire que les Romains, voulant essayer de récupérer les richesses en or qui étaient dans le temple, qui avaient fondu sous la puissance des flammes, ont déplacé pierre après pierre pour pouvoir récupérer cet or une fois qu'il s'était solidifié à nouveau. Oui, il ne reste pas pierre sur pierre. Et cela s'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ, soit une quarantaine d'années après la mort de Jésus. C'est pourquoi la deuxième partie de la question des disciples, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Là, Jésus va répondre à la deuxième partie. Ce qui veut dire que la prophétie s'étant réalisée, celle de la destruction de Jérusalem, on peut penser et on peut affirmer que ce que Jésus annonce qui va arriver avant la fin se réalisera de la même manière. Comme tous les prophètes, il y avait des prophéties à court-moyen terme et des prophéties à long terme. Je disais aux jeunes encore cet après-midi, quand le prophète Ésaïe dit 8 siècles auparavant, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, personne n'a pu le vérifier. Et pourtant, c'était une parole plus que révolutionnaire, n'est-ce pas ? Personne ne l'a vérifié. Et pourtant, c'est bien passé 8 siècles plus tard. Mais il y avait des événements et des prophéties à très court terme qui faisaient dire que, quand elles se passaient, que le prophète parlait de la part de Dieu. Et qu'on pouvait donc imaginer sans peine que ce qui allait être annoncé allait aussi se réaliser. Mais même Ésaïe ne l'a pas vu, bien évidemment. Matthieu 24, nous lisons, et je prends ce texte ensemble, à partir du verset 4. Jésus répondit à cette deuxième question. « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, eh bien l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. » Et puis dans la deuxième partie de Matthieu 24, Jésus focalise un peu les prophéties, alors que là nous sommes dans une prophétie beaucoup plus large concernant le monde dans son ensemble. Après c'est plus centré sur Israël, en tout cas comme la plupart des commentateurs aussi le voient. Le théologien René Pache a dit et écrit ceci dans son livre paru en 1948 intitulé « Le retour de Jésus ». Il est donc non seulement, dit-il, permis de les connaître, parlant de ces signes que nous avons lus de Matthieu 24, mais c'est un devoir pour tout chrétien de les étudier. C'est-à-dire, les étudier, pour moi, je le comprends dans le sens de les mettre en parallèle avec l'actualité. Et ça, c'est capital. Si nous ne voulons pas être surpris par le retour de Jésus, même si nous ne savons ni le jour ni l'heure, si Dieu a donné des signes, c'est quand même pour nous alerter. Vous savez en quel temps vous êtes, donc vous pouvez sentir les choses. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va lier aussi le peuple de Dieu à cette attente. Comme les gens du monde, il faut absolument que nous tenions compte de ces avertissements. Ces signes que nous avons lus ne sont pas à prendre dans un ordre chronologique, mais comme des cycles, et là je vais revenir sur le terme de tout à l'heure, des kairos, c'est-à-dire des événements, qui vont quelque part se pénétrer, se chevaucher, s'imbriquer les uns dans les autres. Tantôt l'un va prendre plus de place à tel endroit du globe, tantôt l'autre ailleurs, etc. etc. Mais ce que dit René Pache, plusieurs de ces signes dans leur essence sont de tous les temps. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des pestes, des tremblements de terre, on est d'accord. Mais ce qui doit constituer pour lui l'annonce de la fin, c'est d'une part l'accroissement considérable de chacun de ces signes et d'autre part leur réalisation absolument simultanée. Et là, nous allons voir et comprendre que quand on regarde l'actualité, on a cette impression d'un accroissement de ces signes, plus qu'une impression, parce qu'il y a des réalités, il y a des faits scientifiques qui le montrent, n'est-ce pas ? Et en même temps, leur concomitance. Tous ces signes sont là plus ou moins présents avec force à des moments et à des endroits du globe. Regardons un peu ces signes-là de plus près. Le premier signe dont Jésus parle, c'est ce qu'on peut appeler la séduction spirituelle. N'est-ce pas, lorsqu'il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Alors, je vais un petit peu vite dans mon vidéo, mais ce n'est pas grave. Je voudrais citer encore un texte avant de commenter un petit peu cela. Dans sa première épître de Paul, épître à Timothée, Paul écrit ceci « L'Esprit dit expressément » que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Nous sommes avertis. Il dira dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, avec, vous vous souvenez, rebelles aux parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, etc. Il ira un peu plus loin en disant que ces hommes, il y a des hommes qui s'introduiront dans les maisons, qui captiveront de faibles femmes, littéralement des femmelettes, c'est-à-dire des personnes en difficulté, qui vont chercher, chargées de péché, précise Paul, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant parvenir à la connaissance de la vérité. Cette fameuse question que Pilate posait à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Beaucoup de gens la cherchent. Et Paul les considère comme des femmelettes dans l'idée qu'il y a une fragilité chez eux qui fait qu'ils vont aller un peu partout auprès surtout des séducteurs. Mais ils ne connaîtront jamais la vérité. Enfin, je ne dis pas pour tous, mais en tout cas, il dit qu'ils ne saisissent pas la vérité. Alors, bien sûr, rien d'étonnant cette séduction puisque dans la Bible, ce fruit de la séduction est perpétré par Satan lui-même qui, déjà au jardin d'Éden, s'était caché derrière le serpent pour séduire un peu mieux encore. En fait, l'erreur d'Ève dans le jardin d'Éden a été de chercher de bonnes choses en dehors de ce que Dieu avait donné, en dehors de la volonté et du plan de Dieu. L'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal, il nous est dit qu'il était bon à manger, agréable à la vue, est précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est ce que Satan a mis dans l'esprit, dans le cœur d'Ève. Alors qu'au départ, elle avait dit simplement, non, nous n'avons pas à prendre ce fruit. Mais une parole terrible a alimenté et a fait venir cette vision différente de ce fruit par ce qui est Dieu, a-t-il réellement dit. Et ils sont là, les séducteurs. Ils sont dans la confusion de la parole de Dieu. Ils sont dans la falsification de ce que Dieu dit. Mais est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça ? Et le doute entre quand on commence à raisonner de cette manière-là. Quand Jésus dit « Devenez comme des petits-enfants si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu », eh bien, c'est bien dans cet esprit-là. Croire en Dieu est une chose que nous devons faire, bien évidemment. Mais ce que nous devons aussi faire, c'est croire ce que dit Dieu. Quand il le dit, même si l'on ne comprend pas forcément tout, croire, et on l'a dit tout à l'heure avec les jeunes, vous n'y étiez pas, mais que la parole de Dieu est bel et bien inspirée de lui et que ce qui est écrit est juste et vrai, même si je ne le comprends pas aujourd'hui. Demain, les éclairages pourront venir. Dieu a-t-il réellement dit, a eu raison du savoir, quelque part, intellectuel d'Ève? Il faut noter que la séduction spirituelle, je m'y arrête un peu plus longuement que les autres parce que c'est important et je pense qu'aujourd'hui c'est capital. La séduction spirituelle a commencé très tôt, c'est ça qui est assez surprenant de le voir. Et nous le lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, par exemple, au chapitre 11. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Je suis dans la 1, je passe à la 2. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 11. Voici ce qu'écrit Paul. De même, verset 3, que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité. La particularité de la séduction, c'est de compliquer l'évangile. Et je trouve qu'il y a des complications qui sont là pour nous mettre le doute et la confusion. Car, et précise Paul, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, dit-il aux Corinthiens. Mais pas que. Nous avons aussi le texte de Galates, donc une autre communauté des premiers siècles. On est au tout début de l'évangile, n'est-ce pas, du christianisme. Eh bien, dès le départ, regardez ce qu'écrit Paul. Écoutez, Galates 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, c'est-à-dire troubler, l'évangile de Christ. Voilà le principe de la séduction. C'est de troubler la simplicité de l'évangile. Et alors, Paul va loin, parce qu'il dit, si nous-mêmes, donc Paul et les apôtres, ou si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, dit-il, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, écrit-il, je ne serais pas serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Paul appelle ici un autre évangile si ce n'est un évangile que ni Jésus ni ses apôtres, après lui, ont prêché? Quelque chose qui s'est rajouté ou quelque chose que l'on a retranché? C'est pourquoi quand Jean termine dans l'Apocalypse, si quelqu'un ajoute quelque chose à la prophétie ou si quelqu'un le retranche à la prophétie, vous connaissez ces textes. Donc il y a bel et bien quelque chose qui est... nous sommes avertis par cela. Alors, c'est un évangile qui, pour moi, est sous la domination du Dieu, a-t-il réellement dit? Parce qu'il rajoute et il enlève. Parce que si effectivement Dieu n'a pas voulu dire ça... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et là, on peut rajouter ou on peut enlever pour essayer de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Au lieu d'accepter les paroles telles qu'elles ont été données, et je trouve qu'on a passé dans des doctrines et accepté des doctrines terribles et terrifiantes, derrière le Dieu a-t-il réellement dit? Ne laissons jamais un verset ou une partie de verset de l'Écriture être pris hors de son contexte. Et hors du contexte général de l'Écriture, en même temps. Contexte immédiat, contexte de l'Écriture, pour lui faire dire le contraire de ce que le texte veut dire. Pierre qualifie ceux qui font cela de personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens pour leur propre ruine. Alors, je fais une parenthèse, quand Paul disait « Est-ce que c'est pour plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Non. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous annoncer quelque chose qui va vous faire du bien à vos oreilles. Je suis là pour vous annoncer tous les esseins de Dieu. Et si ça ne vous fait pas plaisir, ce n'est pas grave. C'est parce que ça vous touche. Et il faut que ça vous touche. Et au jour d'aujourd'hui, on entend des prédications, parfois, qui font plaisir. On entend des prédicateurs qui caressent dans le sens du poil pour leur propre gloire, dans certains milieux. Et je n'ai pas honte de le dire, et pas peur de le dire. Mais que Dieu me garde, que Dieu nous garde en tant que prédicateurs, de tomber dans ces travers-là. Car c'est facile, n'est-ce pas, de dire et de dire au peuple et aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous titiller, Dieu veut nous transformer, et pour cela, il va forcément nous dire des choses qui vont nous déranger et qui ne vont pas nous plaire, mais qui vont nous amener à la repentance, qui vont nous amener à l'humilité et qui vont surtout nous amener dans son royaume. Celui qui persévérera, dit Jésus, jusqu'à la fin, sera sauvé. Ailleurs, Paul écrit aux Thessaloniciens que notre prédication repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Attention au business dans ces milieux-là. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. C'est clair. Donc, pour comprendre la séduction et voir si nous avons affaire à un faux prophète, regardons les motivations qui sont derrière. Notre intelligence est là pour nous faire examiner toutes choses. Soyons comme ces Béréens qui reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais mes amis, quand ils parlent des Écritures ici, de quoi s'agit-il ? C'est pas le Nouveau Testament, il n'était pas encore écrit. C'est l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils connaissaient des lois et des prophètes. C'est là qu'ils allaient chercher, parce que Paul se référait aux prophètes et aux lois, aux psaumes, etc. Et ils regardaient si c'était bien conforme à ce qu'on leur disait. Alors, je vais terminer par la séduction. Attention, parce qu'elle commence toujours par un tout petit compromis qui peut paraître très anodin, n'est-ce pas ? Comme on dit, on te laisse le petit doigt, mais après on va te prendre la main et puis le bras. Voilà le compromis.
Hein ?
Et la tête aussi. Et la tête aussi, voilà. Non, ça va toujours un peu plus loin, la compromission. Et l'apôtre Paul écrira, et justement, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, pour ne pas la supporter, eh bien, ils vont accepter des compromis. Ou parce qu'ils ne la supportent pas, ils accepteront des compromis. Parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables, des choses qui sont vérité, qui sont pas de vérité et qui n'entrent pas et qui ne permettent pas de connaître la vérité, parce que ce sont des fables. Et vous remarquerez ce que je disais tout à l'heure, cette démangeaison de n'entendre que ce qui ne dérange pas quelque part. Compromission. Autre séduction, hypocrisie, c'est-à-dire l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, eh bien, c'est notre relation avec le Seigneur Jésus. C'est notre conversion, notre nouvelle naissance. Voilà la force de la piété. Et si on n'est pas passé par ce chemin-là, la piété n'a pas de force. Elle est religiosité, ou elle devient religiosité, dont hypocrisie. C'est exactement ce dont souffraient les pharisiens. Et Jésus, Matthieu 23, relisez ce chapitre, le leur dit très clairement. Autre problème, le libéralisme, dont on entend beaucoup parler au jour d'aujourd'hui, et qui fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, qui prend la Bible pour un livre ordinaire. Or, c'est un livre extraordinaire que nous devons prendre tel que les textes ont été écrits parce qu'inspirés de Dieu. Je pense aussi à un syncrétisme qui fait qu'on fait une belle soupe de beaucoup de choses et on essaie de l'avaler ou de la faire avaler. On prend un peu de ceci, on prend un peu de cela, n'est-ce pas ? Histoire de faire plaisir à l'un, de faire plaisir à l'autre, de ne pas surtout se mettre à dos un tel. Tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas ? Non. Et à un moment donné, ce n'est pas possible. On ne peut pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Et une dernière chose qu'il faut mettre en avant, c'est l'œcuménisme. Il y a un bon œcuménisme, et il faut arriver à le discerner, mais il y a un mauvais œcuménisme, ce qui va un peu aussi dans le syncrétisme, qui fait qu'on veut un peu tout mélanger. Donc attention, il y a danger, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'enfermer dans notre boîte et ne plus regarder à droite ou à gauche. Sentons les choses, discernons les choses selon la volonté du Seigneur. Et puis, je voudrais terminer par cette image. N'oublions jamais que Satan use de contrefaçon. C'est-à-dire que Satan est une créature de Dieu. Il n'est pas créateur. C'est-à-dire qu'il prend ce que Dieu crée et il le pervertit pour son compte. Mais il ne crée pas. Vous ne trouverez jamais un faux billet de 300 euros. Vous savez pourquoi ? Le vrai n'existe pas. Et si vous arrivez avec un billet de 300 euros pour aller acheter quelque chose dans un magasin, vous allez tout de suite être repéré. Par contre, si vous allez avec un vrai faux billet de 100 euros, là, vous ne serez pas repéré facilement, sauf si vous avez la petite boîte, là, le petit truc là, qui fait repérer les faux billets. Satan n'est pas aussi grossier que cela. Il est intelligent quand même. Il ne va pas nous mettre sous nos yeux des choses aussi grossières. Non, la confusion, elle est beaucoup plus subtile. Mais le faux se cache dans le vrai. Et Satan prend le vrai pour en faire un faux et pour tromper les gens aujourd'hui. Séduction spirituelle, on pourrait développer encore énormément ce sujet, on est d'accord. Mais je vais m'arrêter sur ce premier point. Deuxième point, guerre et bruit de guerre, nous irons plus vite, bien évidemment. Quand on y pense quand même, et quand on lit ce texte de Jésus, il paraît incompréhensible et à la fois même un peu contradictoire que notre planète, sauf à de très brefs intervalles, ne connaisse pas la paix. On le voit, on le lit, on l'entend. La paix est quand même l'aspiration suprême de tous les peuples. Bien évidemment, je ne suis pas contre la paix, bien au contraire, n'est-ce pas ? Mais on n'y arrive pas. Alors, chaque jour, au travers les journaux, la radio, la télévision, maintenant Internet, enfin depuis un moment Internet, nous sommes témoins de cela, de ces scènes horribles, de ces guerres, de ces bruits de guerre qui sont constamment à nos oreilles. Je pense à cette guerre qui est apparue et que l'on ne pouvait pas voir encore il y a 15 ou 20 ans, même 15 ans en arrière, peut-être, oui, peut-être un peu plus, mais bon, 15 ans au moins, celle du terrorisme, qui est une guerre qui touche tous les pays du monde, d'une certaine manière, et qui peut sortir et surgir de n'importe où, n'importe quand, on ne le sait jamais, qui atteint les États, riches ou pauvres, parce qu'elle est poussée par une idéologie, plus que par les guerres d'antan. Oui, c'est un fait nouveau que le 11 septembre a dramatiquement révélé au grand jour. Depuis, les choses ont empiré, nous l'avons vu, nous le voyons, malgré les moyens que les hommes mettent en œuvre pour combattre cela. Je pense aussi à une autre guerre que l'on ne soupçonne peut-être pas forcément au premier abord, c'est la guerre commerciale, qui est terrible. Quand on lit certains articles et que l'on voit qu'on lit des choses, de la puissance qu'il y a entre les États, derrière le commerce, mais qu'est-ce qui se cache derrière le commerce ? Le business, Mammon, qui combat, qui tient, qui lie. On y reviendra demain après-midi, j'en parlerai un petit peu plus longuement de cela. Oui, cette puissance diabolique, cette guerre, s'applique sans souci cet adage que nous connaissons bien, la fin justifie les moyens. Il y a quelques années maintenant, le 15 novembre 2006, Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, qui est décédé d'ailleurs il y a quelques mois, déclarait ceci, que le changement climatique était désormais, donc on est en 2006, hein, c'est assez vieux quelque part, désormais l'une des principales menaces à la paix et à la sécurité. Et il précise, l'augmentation des températures va provoquer des phénomènes importants qui vont provoquer des problèmes de récolte, de crise donc alimentaire, de raréfaction de l'eau potable, poursuit-il. L'eau. Là encore, source de conflit qui va, à mon sens, devenir encore plus important. Savez-vous, par exemple, que le lac Tchad a perdu 80% de sa superficie en seulement 40 années ? C'est énorme. Il disparaîtra d'ici 20 ans, si rien n'est fait. Mais que peut-on faire ? En sachant qu'autour de ce lac Tchad, il y a des hommes et des femmes qui vivent du poisson, de la pêche, l'agriculture, avec l'eau. Cette rareté de l'eau va forcément entraîner, à cause des effets qu'elle produit, des déplacements de population. On l'a déjà vu cela, on le voit arriver. L'immigration, je ne fais pas de politique, hein, mais c'est un fait. Certains estiment à plus de 150 millions de personnes qui vont devoir se déplacer dans les 10 prochaines années. Où vont-elles aller ? Mais la question peut-être la plus pertinente, c'est qui va les accueillir ? Et on le voit bien aujourd'hui la problématique, n'est-ce pas ? Dans un monde égoïste, ami de l'argent, tel que Paul les a décrits, où le partage, on n'a pas trop envie, n'est-ce pas ? Il faut reconnaître les choses. Et je le dis pour moi aussi, hein, quand j'y pense. Est-ce que je suis prêt à accueillir, pas forcément dans mon pays, mais dans ma maison, ou dans, vous voyez ce que je veux dire, à partager ce que j'ai? Mais quand j'y pense, honnêtement, je ne suis pas sûr d'être prêt. Mais que Dieu me garde de ne pas être prêt le jour où, si ça doit se passer. Il faut se préparer quelque part. Parce que la question ne sera peut-être pas alors de savoir qui est riche ou qui est pauvre, mais peut-être de savoir qui va vivre et qui va mourir. Et je ne veux pas être celui qui va devoir décider de cela. Mais quelque part, peut-être un jour, quelqu'un aura à décider de ça. Oui, à ce titre, guerre, bruit de guerre, sont beaucoup plus importants, ont beaucoup plus de conséquences au jour d'aujourd'hui, dans cette mondialisation qui se crée, et on le verra encore demain après-midi un peu plus longuement, et qui fait que les choses sont tellement imbriquées les unes dans les autres, les unes dans les autres, que ça va chambouler en fait le monde et la planète tout entière. Autre signe que Jésus annonce, et comme René Pache le disait, il y en a toujours eu, bien évidemment, et tristement, des famines et des tremblements de terre. C'est vrai. Selon l'aide au programme alimentaire de l'ONU, que j'ai vu dernièrement, sur plus de 805 millions de personnes sous-alimentées, il y a 805 millions de personnes, qui sont sous-alimentées aujourd'hui. 1,3 milliard de tonnes, alors ça peut changer bien évidemment, ce sont des chiffres qu'il faut prendre quand même avec toute prudence, de nourriture sont gaspillées dans le monde chaque année. On le sait, bien sûr, on le sait. On n'a pas besoin forcément de savoir ces chiffres-là, on le voit tout de suite. Les foyers de famine, bien sûr, sont de plus en plus, ça il faut quand même le reconnaître et l'admettre, tristement pour ces pays, de plus en plus la conséquence de la cupidité et l'orgueil d'une poignée d'individus qui spolient les richesses de leur propre pays en particulier. On n'est pas là pour dire c'est bien fait pour eux, ils ont qu'à élire des gens plus démocratiques, on va dire. Non, ce n'est pas si simple, on est d'accord. Mais quand même, c'est une conséquence qui est directe. Et on le voit, c'est cette cupidité et cet égoïsme va au détriment de la vie même d'un peuple. À cela s'est ajouté et vont se rajouter encore les catastrophes naturelles qui vont rien arranger. Et c'est ce que dit Luc, parce que Matthieu n'en parle pas. Mais dans son complément et dans son parallèle, Luc parle, lui, de peste, de phénomènes terribles et de signes dans le ciel. C'est la même parole de Jésus, sauf que Matthieu, lui, ne les a pas données, mais Luc l'a précisé. Et j'ai été frappé, quand je relisais cela, il y a quelque temps, sur le mot peste. Parce que la peste, quand on y pense, dans l'Ancien Testament, est souvent mentionnée et donnée comme un jugement de Dieu. Ce peut être sur son peuple comme sur un individu. Par exemple, Jérémie, chapitre 14, verset 12, nous dit « Dieu, je veux les détruire par l'épée, la famine et la peste. Hein, » maladie, etc. David aussi vivra ce problème de peste. Alors je me suis interrogé, ça m'a interpellé, ce mot peste. Et je me suis demandé, et je vous interroge en même temps, de ce qu'il faut penser aujourd'hui, des 33 millions de personnes qui sont actuellement porteurs du virus du sida. N'est-ce pas une peste, ce virus du sida? 1 million de morts rien que dans l'année 2008. Maladie qu'il faut quand même rappeler, apparue au milieu des années 80 et qui était et est sexuellement transmissible, entre autres. Mais que les mœurs dépravées ont confirmé et accentué la propagation. Et tous les pays du monde sont touchés. On n'est pas là simplement dans une peste comme on pouvait voir dans nos pays. On érigeait même des murs de peste comme si ça pouvait arrêter, etc. C'était très localisé, la peste noire, entre autres. Non, là, on a un phénomène mondial qui s'est littéralement développé. Et particulièrement, on le sait, on le dit, il ne faut pas avoir peur de le dire, dans un monde où la liberté sexuelle s'exprimait. Car c'est une maladie qui vient de là en particulier. Je n'oublie pas, entre parenthèses, ceux qui malheureusement, et malgré eux, dans une vie normale, ont été contaminés en dehors de ce circuit sexuel amoral. Je pense à ces transfusions sanguines qui ont eu lieu dans les premières années 80 et qui ont fait des drames aujourd'hui et qui en font encore malheureusement. Donc ce n'est pas si simple malgré tout, mais peste. Et c'est un virus aujourd'hui dont on a de la peine, même si on trouve des parades un petit peu, à trouver de quoi l'éradiquer complètement, comme d'autres maladies l'ont été en son temps. En même temps, que penser de l'angoisse de nos gouvernements quel qu'il soit, de ce terrorisme dont on a parlé, qui pourrait utiliser des virus et des bactéries pour amener cette fameuse guerre bactériologique dont on se prépare quelque part, parce qu'on y pense, et ce serait terrible et dramatique. Quant aux phénomènes géologiques, selon la Société géologique américaine, les tremblements de terre semblent être de plus en plus fréquents, non seulement ce qui concerne les secousses mineures, mais aussi celles dites meurtrières. Bien sûr qu'elles sont meurtrières, parce que depuis des siècles, les gens se sont concentrés dans les villes. Donc forcément, quand ça bouge et quand ça tombe, il y a plus de morts. C'est une évidence. Ça, il ne faut pas l'enlever. Mais il semble qu'il y ait une activité très importante et beaucoup plus importante et qui s'accentue encore un petit peu. Le réchauffement climatique que nous reconnaissons au jour d'aujourd'hui comme provoqué en grande partie par l'orgueil et la cupidité de l'homme pourrait, selon les spécialistes, accentuer les phénomènes dont peut parler Luc dans son évangile et que Jésus a donné, comme ces ouragans et ces typhons, qui sont des phénomènes terribles, qui sont de plus en plus terrifiants. Je faisais remarquer aux jeunes cet après-midi que quand il y a un phénomène terrible, que ce soit tremblement de terre ou autre, un peu exceptionnel, et on l'entend chez les médias, nous n'avons jamais vu ça, ou ça ne s'est pas vu depuis, etc. Et ils parlent d'un mot, celui de l'apocalypse, n'est-ce pas ? Ils disent « c'était l'apocalypse ». Même les gens qui sont interviewés, hein, suite à... Et on le comprend, ce que ça veut dire. Mais vous imaginez que le mot apocalypse signifie « révélation ». Traduisez chaque fois que vous entendez les journaux télévisés et les gens dire ça. C'était l'apocalypse. Eh bien oui, c'était une révélation. Est-ce que ce n'est pas une révélation ? Tous ces signes que Jésus nous a donnés. Vous savez en quel temps vous êtes. Vous les voyez, c'est une révélation. Parce que vous, mes enfants, vous savez où nous allons. Et puis, je vais terminer par le dernier signe. Jésus a donné, et je vais les prendre ensemble, car il me semble assez lié, la persécution, la diffusion de l'évangile. Oui, les disciples ont bien compris, tout de suite, eux par contre, ils ont vu ce que cela signifiait quand Jésus disait « vous serez haïs et persécutés ». La persécution a toujours existé et malheureusement, elle existera jusqu'à la fin parce que nous avons affaire à un combat spirituel entre Dieu et Satan. Et que tant que Dieu ne viendra pas, tant que Christ ne reviendra pas et que Satan ne sera pas lié, la persécution va continuer un peu partout et on le voit dans le monde. Alors, nous, en France en particulier, peut-être, je dirais encore, l'Europe, nous ne sommes pas persécutés physiquement, mais nous devenons persécutés moralement. Parce qu'il y a des choses qui dans notre esprit, quand nous entendons, quand nous voyons des prises de position dans nos pays, vont contraires à la loi de Dieu. Ça nous persécute quelque part. Ça nous titille, ça nous fait mal. C'est une persécution. Quand des textes de l'Écriture ne peuvent plus être lus parce qu'ils sont considérés comme aujourd'hui pas à la mode, c'est de la persécution. Les prédicateurs qui lisent certains textes peuvent être condamnés, pour homophobie en particulier. Vous voyez ce que je veux dire. C'est de la persécution, même si on ne nous tape pas sur la joue. On nous tape autrement, on nous muselle. Et d'ailleurs, ça fait penser à ce texte des Actes des Apôtres, quand l'apôtre Pierre, en son temps, et par deux fois il le dit, on leur interdit de parler du nom de Jésus, à ce moment-là, ils désobéissent à la loi et à l'État. Et ils disent, nous obéissons d'abord à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Mais dans le sens normal, nous sommes soumis aux autorités. Mais lorsque les autorités nous empêchent d'être des disciples et de dire ce que Dieu nous a ordonné de dire, à ce titre, nous sommes libérés de votre obéissance. Et nous obéissons d'abord à Dieu. Et ça, c'est un discernement qui n'est pas facile à avoir, mais qu'il faudra peut-être un jour avoir. Et qui fera que nous serons peut-être hors la loi, à certains titres, mais hors de la loi des hommes, mais dans la loi de Dieu. Ce sera peut-être quelque chose de compliqué, mais que nous devrons peut-être mettre en œuvre. Oui, c'est parce qu'elle proclame l'unique chemin de la vie que le diable connaît, qui connaît mieux que personne la vérité, puisqu'il essaie d'en détourner les hommes, l'Église est persécutée. En même temps, et c'est pourquoi je les ai mis ensemble, la diffusion de l'Évangile, quand on pense un petit peu au recul historique, qu'à la fin du 19e, début du XXe siècle, a commencé l'expansion de l'Évangile. Jusqu'avant, très peu de missions, quasiment peu de missions existaient. Mais dans fin des années, fin du 19e, on a commencé à créer des sociétés missionnaires qui sont parties. Il y a eu réveil, suite au réveil d'ailleurs, la réforme en particulier, les choses se sont mises en place. Donc on a imprimé des Bibles, on a envoyé des missionnaires, avec eux, bien sûr, leur Bible, puis on a utilisé la radio, puis on a utilisé la télévision, puis on a utilisé plein de choses dans le XXe siècle, n'est-ce pas, qui ont fait que la diffusion de l'Évangile est devenue exponentielle. Alors que jusque à ce moment-là, non, c'était relativement fermé. On ne publiait pas, on ne partageait pas, ou peu. C'est un signe. Ça ne veut pas dire, parce que Jésus le dit en dernier, c'est pour ça que je le dis, ce n'est pas dans la chronologie, que ça y est, parce que tous les pays du monde ont plus ou moins leur traduction biblique, nous sommes sur le point de recevoir le Seigneur, ce qui peut être le cas en même temps, mais pas sûr. Mais on voit que ça a bien avancé. J'ai une belle sœur qui traduit, travaille depuis 30 ans à la traduction de la Bible, dans un pays d'Africain, n'est-ce pas ? Elle dit, on a fait énormément de travail, et ça avance très vite, bien évidemment. Et puis, ce qui depuis quelque part, une quinzaine d'années aussi, a été mis en place et est arrivé, c'est bel évidemment le phénomène Internet, qui fait qu'aujourd'hui, la parole de Dieu arrive directement chez l'habitant, n'est-ce pas ? En un clic, il peut découvrir la vérité, mais en un clic, il peut aussi découvrir la contre-vérité. C'est là que Satan va utiliser, comme le Seigneur utilise aussi tous ses moyens, mais ça, on y reviendra demain après-midi, je le développerai aussi un peu plus longuement. Voilà, je ne vais peut-être pas en rajouter plus, parce qu'il y a beaucoup d'informations, n'est-ce pas ? On ne va pas être plus en avant. J'espère avoir été clair, et que le Seigneur vraiment puisse nous encourager. Vous savez, moi, je dis, quand on me dit, mais comment tu te présentes, comment tu te sens dans ce monde ? Je dis, je suis un pessimiste confiant. Je ne suis pas optimiste du tout, parce que la Bible ne me permet pas de l'être, mais je suis confiant. Parce que de toute façon, je l'ai rappelé, quand vous verrez toutes ces choses, redressez votre tête, votre délivrance approche. Ça, c'est ma confiance. Et le fait d'être pessimiste, eh bien, c'est que de toute façon, quand on lit ce qu'on a lu ensemble, on ne peut pas être optimiste. Ce n'est pas possible. Et dire tout va aller bien demain dans un autre monde, c'est un mensonge, c'est une contre-vérité que nous ne devons pas accepter. Ce qui permet de permettre, quelque part, de dire aux gens, attention, comme au temps de Noé, d'avertir, d'être des prédicateurs de justice. Nous serons hués, nous le sommes, conspués, nous le sommes, comme Noé l'avait été, mais au moment où Dieu a fermé la porte de l'arche, vous savez ce qui s'est passé. Ils ont eu beau crier, ils ont eu beau pleurer, malheureusement, ils ont été emportés par les eaux. Il en sera de même lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Donc c'est un discours qui va à l'encontre de certains libéralismes, qui dit que de toute façon, par son grand amour avec un grand A, Dieu au dernier moment sauvera tout le monde, c'est une erreur, c'est un mensonge, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Et je le dis avec tristesse, parce que nous aimerions, bien évidemment, que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que Dieu veut. Paul le dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait de Dieu. Le problème, c'est que l'homme est libre et qu'il l'accepte ou qu'il refuse. Mais s'il refuse, il en a aussi les conséquences, la Bible le dit. Voilà, ce sont des discours qui sont un peu durs parfois, durs, tout simplement, à entendre même. Mais comme dit Paul, on n'est pas là pour faire plaisir. Si l'on est convaincu que la parole est la vérité, eh bien nous le disons. Et puis Dieu est assez grand pour toucher les cœurs au moment où il faut. Et c'est lui qui est le juste juge. Je ne dois pas me mettre à sa place. Il a dit des choses. Je les comprends ou pas, je les accepte, et puis, au final, de toute façon, il aura quand même le dernier mot. Il fera comme lui-même l'a dit et l'a prévu, parce que de toute façon, il ne changera pas sa parole. De ce côté-là, nous ne devons pas en douter. Voilà, je vous propose encore simplement de prier ensemble pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore pour ce temps de partage, en tout cas de méditation, d'ouverture de ta parole, de lecture. Nous avons essayé, Seigneur, de comprendre ces temps et ces moments, de voir comment cette actualité est aussi bouillonnante aujourd'hui et combien la parole l'avait déjà annoncé. Oui, Seigneur, nous sentons bien que nous arrivons dans des temps particuliers. Que tu puisses, Seigneur, par ton esprit, donner à chacun de tes enfants cette certitude. Et en même temps, combien l'apôtre Paul nous rappelle que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu si nous avons mis notre vie entre ses mains, si nous sommes entrés dans l'arche, si nous sommes entrés dans la personne et avec Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il vient bientôt. Et l'apôtre Jean le disait, viens, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour ce monde, nous te prions pour peut-être ceux que nous connaissons et qui ne te connaissent pas. Touche les cœurs, Seigneur, nous te le demandons. Te prions pour que nous puissions être gardés, d'être séduits, de nous décourager, de nous détourner, car l'ennemi est fort et il se déguise en ange de lumière pour mieux travailler les cœurs et les corps. Seigneur, merci encore pour ton amour et ta patience. Oui, que ton nom soit béni en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.